Dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars, la liste Mieux Ensemble est présente sur Neptune FM. Patrice Bernard, tête de la liste, bonjour.
Bonjour.
Mathieu Rioux, bonjour.
Bonjour Roland.
L'accès au logement est une préoccupation majeure. Quelle solution proposez-vous, Patrice ou Mathieu?
Alors, concernant le logement, la préoccupation est plus que majeure. On est sur un territoire tendu. On a une population importante de résidences secondaires. On a augmenté en population de résidences secondaires en 6 ans. On est passé de 60% à 66%, qui fait, à un moment donné, qu'effectivement, un territoire qui est victime de son succès, mais derrière, on a besoin de loger notre population et notre population à l'année. Donc, parmi certaines mesures que nous souhaitons mettre en place et où vous allez pouvoir prendre le temps dans la lecture quand vous allez revoir notre programme, nous souhaitons tout d'abord, dès que nous allons être élus, la première année, lancer la procédure pour mettre en place le PLU. Donc ça, c'est important.
Changement de PLU.
Ah oui, le changement de PLU, c'est très important.
Notamment par rapport à la loi Lemaire.
Alors, c'est pas par rapport à la loi Lemaire, c'est-à-dire que le PLU aurait dû être révisé en 2020. Voilà, dès 2020, nous on l'avait annoncé aux précédentes élections. Et ce document qui a besoin d'être travaillé, élaboré pour une durée de 4 à 5 ans, donc c'est pour ça qu'on veut partir dès 2026 pour son élaboration, pour d'une part, mettre en adéquation toutes les lois et toutes les règles. Ça a beaucoup évolué depuis il est opposable depuis 2014. Un PLU a une durée de vie de 10 à 15 ans et on aurait dû le réviser. Ils auraient dû le réviser. Malheureusement, c'est un dossier comme parmi tant d'autres qui est resté en sommeil. Et là, on en a pour 4 ans à le faire évoluer pour le mettre en adéquation avec la loi climat et résilience. La loi ZAN, bien sûr, nous avons toujours la loi littoral sur notre territoire. Et puis, on va échanger sur la possibilité de mettre en place la modification du PLU. On n'est pas dans une révision globale, mais dans une modification pour mettre en place la servitude Lemaire. C'est un dossier assez sensible. On va échanger, si vous voulez bien, cher Roland.
Servitude Lemaire, vous pouvez nous en parler plus en détail.
Donc là, l'objectif, c'est-à-dire que dans les territoires où vous avez plus de 20% de résidences secondaires, ce qui est le cas chez nous, on a la possibilité, comme toutes les communes, il y a beaucoup de communes en France qui l'ont mise en place, on a la possibilité d'orienter les terrains non bâtis à titre de résidence principale. Donc voilà, une simple modification du document d'urbanisme pour des délais de 3 à 8 mois. Chez nous, c'est toujours un peu plus long qu'ailleurs. Et puis, mais ce sera important au niveau de la population de bien l'expliquer pour ne pas affoler la population. Et derrière, si on met ce dispositif en place, c'est que dans l'articulation de la loi climat et résilience, puis la loi ZAN, zéro artificialisation nette, on a consommé trop d'espace. C'est-à-dire que, comme je disais en préambule, le fait de ne pas avoir révisé le PLU, et on est passé en 6 ans, au niveau des constructions, on est passé de 60 à 66% de résidences secondaires, ce qui est énorme pour un territoire comme le nôtre. Et puis le territoire se diminue parce qu'il y a beaucoup de constructions. Et non seulement il faut réviser les zones, mais les zones, on ne pourra plus les étendre à l'urbanisation. C'est fini. Donc, la loi ZAN nous contraint, ils prennent un calcul décennal entre 2011 et 2021, et ce potentiel constructible, ils le divisent par deux pour donner des droits à construire entre 2021 et 2031. Donc, c'est-à-dire, si je donne un exemple, si on a délivré 1000 permis de construire pendant cette première décennale, on a le droit qu'à 500 pendant la seconde. Donc, effectivement, à l'objectif 2050, de plus artificialiser les sols. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra construire que dans les propriétés bâties. On pourra faire des extensions.
Des rénovations,
des extensions, mais on ne pourra pas...
Mais pas de nouvelles constructions, c'est ce que vous nous dites.
Voilà, c'est ce que la loi nous dit à ce jour. La loi peut évoluer. Aujourd'hui, on est en 2026, on aura des élections présidentielles prochainement.
2027,
donc... Voilà, mais ils disent quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. On n'est pas arrivé en 2050. Donc, c'est arrivé à l'aube de 2050. Moi, je dis zéro artificialisation nette, c'est pour 2050. On n'y est pas encore. L'important, c'est que les terrains qui nous restent à construire, on les oriente uniquement sur la résidence principale. Je dis bien sur résidence principale, celles et ceux qui ont un terrain mais qui n'habitent pas Lidieu pourront quand même construire, mais à titre de résidence principale, à défaut d'y habiter, ils pourront toujours louer l'habitation.
Louer à l'année, par contre.
La location est obligatoire, évidemment, pour l'année.
Loi Lemeur, de votre côté, sur l'ensemble du territoire de l'île-Dieu ?
Alors, l'ensemble du territoire de l'île-Dieu, je conviens que c'est uniquement sur les zones urbaines. Les zones de loisirs, les zones agricoles, les zones naturelles, c'est autant de zones que c'est pas utile. Mais l'absence de révision du PLU aussi va nous contraindre à remettre en cause tout le travail qu'on avait fait préalablement dans les zones de réserve foncière, où la commune a beaucoup investi, beaucoup d'argent, dans des zones 1AU et 2AU. Si on ne lance pas l'opération dans les zones 1AU, c'est des zones qu'on peut aménager de suite, on perdra ces espaces. Tous les espaces qui ne sont pas consommés partiront en zone naturelle. Et tous les espaces de réserve foncière, les zones qu'on appelle les zones 2AU, celles-ci, elles sont orientées uniquement au naturel. Et ce qui est dommageable, parce que ça fait des années qu'on achète et qu'on a investi pour l'avenir. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de tout ce qui est lié au logement, hein, on parle du PLU, mais le PLU, c'est qu'une variante. Hein. Ça nous donne des orientations. Et le PLU, c'est à la fois le social, c'est évidemment le logement, on vient d'en parler, mais c'est la vie économique, c'est tous nos espaces naturels. C'est vraiment tout ce qui comporte. Voilà, c'est en fait la Bible pour la vie insulaire. Par rapport aux actions que tu viens d'évoquer, pour l'avenir, on doit densifier intelligemment et ne pas dénaturer notre architecture et nos paysages. J'insiste fortement, il y a eu beaucoup d'évolutions, on a laissé un peu les choses se faire, malheureusement.
Mais, un peu trop, en vous écoutant parler.
Alors après, un peu trop, après, chacun, c'est l'appréciation de chacun. Notre objectif, nous, c'est...
Non, mais votre avis, parce que en vous écoutant parler, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se trame.
Mais disons que on a été épinglé au niveau de la Chambre régionale de la Cour des comptes pour mauvaise gestion du foncier, et pas que. Hein. Donc, il est évident que notre objectif est effectivement de préserver l'architecture locale, visible des voies, hein, et des espaces publics, tout en assouplissant les règles à l'arrière des bâtiments. Il faut aussi voir l'évolution et les besoins qu'ont les habitants. Hein. On voit beaucoup d'habitants qui ont besoin de construire des espaces comme des vérandas d'une certaine surface. Là, à un moment donné, que c'est pas visible, nous, il n'y a aucune ambiguïté dans ce cadre-là. Mais ce que j'insiste fortement, c'est quand je dis densifier, c'est-à-dire que les droits à construire, et on le voit depuis la loi Allure et la loi NOTRe, ils ont supprimé les coefficients d'occupation des sols au détriment des caisses. Et ce qui fait, c'est qu'on a eu des droits à construire sur notre territoire entre 2014 et 2026. Enfin, la loi NOTRe et Allure sont arrivées un peu après. Mais en gros, ces 10 dernières années, on a des droits à construire qui sont multipliés par 3 par rapport aux documents d'urbanisme qu'on avait mis en place. Donc, il est évident qu'il va falloir orienter tout ça correctement. Ce qu'on souhaite faire aussi dans le cadre pour la création de logements, c'est poursuivre le programme de logements sociaux. On en a à différents endroits. On a, voilà, ce qui a été poursuivi, ce qui a été mis en place par la municipalité, nous, on suit le poursuivre. Il est évident parce qu'on a travaillé en bonne intelligence avec eux. Lancer les permis d'aménager pour l'accession à la propriété sur des entités comme la Tonnelle, la Belle Poule, les Bossis, sur Saint-Sauveur, pour pas perdre ces terrains. Donc ça veut dire que dès 2026-2027, on lancera ces opérations parce qu'une surface consommée, c'est pas une surface perdue. C'est une articulation un peu pas trop compréhensible pour tout un chacun, mais il faut comprendre, si vous avez une surface de 2 hectares qui est orientée à l'urbanisation, dans le cadre des permis de lotir ou le permis d'aménager, si on lance l'opération, on peut tout lotir et vendre les terrains pour les jeunes. Si on ne lance pas l'opération, on perd tous les terrains, alors qu'on est propriétaire. Donc, dans le cadre aussi de tout ce qu'on souhaite mettre en place, aujourd'hui, il y a un projet d'habitat coopératif et notre objectif, c'est la volonté, c'est d'en faire un second. Un second, pourquoi ? Parce que c'est intéressant de mettre en place, ce qui s'appelle BSR, c'est bail réel solidaire, où, à un moment donné, ils ne sont pas propriétaires du terrain, donc ça fait des économies. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que ils payent un petit loyer sur un délai très long, et derrière, ils ont juste à payer la construction.
Ça limite la spéculation également.
Ça, voilà, et puis on arrive, là dans cette opération, on arrive à avoir une concentration de bâti. Alors on n'a pas assez de recul aujourd'hui, certes, mais pour nous c'est intéressant parce qu'on est capable de mettre beaucoup de logements au mètre carré, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire par ailleurs du reste. D'autres points, c'est coordonner nos aménagements d'ensemble, nos lotissements avec les entreprises de Lille. Là aussi, on ne les a pas sollicités comme il faut, pas suffisamment. Il est important, on les a rencontrés nous dernièrement, et leur dit, ben voilà, l'avenir demain, ça va être la rénovation du bâti, mais dans nos opérations d'ensemble, que ce soit les permis d'aménager ou les permis de lotir, il faut qu'on travaille main dans la main avec vous. C'est-à-dire que si vous avez 10 plateformes à sortir ou 10 montages dans un endroit, on doit être capable, tous ensemble, de tirer les prix par le bas pour que les jeunes de Lille puissent se loger. Également, on va travailler avec les transporteurs. Il y en a plusieurs, puisqu'on puisse acheter nos matériaux par achat groupé. Ça, c'est opportun. C'est opportun parce que ça va nous permettre aussi 10 000 coûts de la construction. Quand on est à plus de 6 000 euros le mètre carré de la construction, c'est pas recevable. Et si on continue comme ça, il est évident que les jeunes ne pourront plus construire.
Est-ce que vous pensez que dans un futur proche, ces jeunes pourront construire sur l'île-Dieu où vous n'avez pas de boule de cristal?
Alors, on n'est que les marionnettes de l'État, hein, je le dis souvent assez. Après, on ne peut pas bétonner sur l'île, mais je pense que pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Où on doit travailler, j'insiste fortement, c'est avec tous les acteurs locaux pour diminuer ce coût à la construction. Hein. Et puis, si on avait l'habitude dans notre génération de construire sur des surfaces de 1000 m², on voit les jeunes maintenant, bah, ils cherchent plutôt un droit à construire qu'une surface de terrain de 1000 m². C'est-à-dire que...
256, 300 m², ça suffit maintenant. Bah, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Si on a des droits à construire qui nous permettent de le faire, 300 m², c'est suffisant.
Tout Mathieu, peut-être un avis
sur le
logement sur l'île-Dieu.
Effectivement, pour revenir sur la construction des jeunes, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne encore et la mairie pourra les y aider, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui font de l'autoconstruction, ça fonctionne très bien, on est beaucoup à être passés par là. Donc, si la mairie peut réussir à réduire, par exemple, le coût des matériaux pour approvisionner les chantiers et travailler un peu main dans la main avec le secteur du bâtiment, ça pourrait être une très bonne chose.
Ouais. Et comme disait Patrice, travailler peut-être avec les transporteurs pour essayer de limiter les coûts.
Transport maritime, transport routier, donc effectivement, il y a pas mal de choses qui pourraient être mises en place pour aider à réduire le coût au mètre carré.
Patrice, oui.
Ouais, dans le cadre aussi de l'habitat, parce que l'habitat c'est vaste, on pourrait en discuter pendant 45 minutes, mon cher Roland.
On a d'autres sujets à aborder également.
Mais je pense que vous avez des questions à nous poser. Donc, c'est toujours aussi poursuivre l'aide à l'amélioration de l'habitat. C'est quelque chose qui fonctionne et que nous, on souhaite évidemment amplifier pour toutes les classes d'âge.
Les rénovations.
C'est la rénovation, mais c'est aussi permettre aux personnes âgées d'avoir des bâtiments plus accessibles par le biais de la mobilité. Aujourd'hui, c'est assez complexe.
On va en parler du bien vieillir.
Ouais. On souhaite aussi accompagner les propriétaires pour les aides financières pour la remise à la location à l'année.
Ça, c'est déjà en cours ?
C'est déjà en cours.
Vous allez poursuivre ce programme ?
Alors, tout ce qui est aide à l'habitat, oui. Après, on est dans un registre différent, on va en parler.
Parce que, allez-y. Hein.
Ouais, nous mettrons des maisons de notre patrimoine immobilier à la location à l'année. J'insiste bien parce que la commune est propriétaire de beaucoup de maisons et il faut qu'on balaye devant notre porte et on montre l'exemple. Et ça, on ne le montre pas. Hein, on a des maisons qui sont pas utilisées, donc c'est important de les mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent y vivre à l'année.
Il y a combien de maisons pas utilisées actuellement sur l'île-Dieu? Est-ce que vous le savez?
Après,
est-ce que c'est quantifiable?
On en a 7 ou 8 qu'on peut utiliser. 7 ou 8 qu'on peut utiliser. Voilà, dans le cadre du...
Ça ferait 8 familles en gros,
ouais, mais
qui pourraient se loger.
Après, il y a beaucoup de maisons qui sont soit en cours de travaux, que la commune possède.
Et faire des rénovations, ce que vous venez de dire.
Et d'autres où, à un moment donné, on n'a pas avancé suffisamment. Prenez un exemple, par exemple, sur le site du Grand Phare, où le Dynamo a mis à disposition l'ensemble du foncier à part une maison. Et donc, il y en a deux. On a des travaux à faire. Et on a la possibilité de loger deux familles. Et c'est pareil autour de l'EHPAD. On a deux ou trois maisons. Donc... J'insiste aussi sur un point que j'ai je tenais à vous dire, c'est au regard de la loi littorale, de la loi climat résilience et de l'articulation de la Loisanne, comme je disais tout à l'heure, de la mauvaise gestion de notre foncier en trame urbaine ces 6 dernières années et l'absence d'horizon de PLU, des surfaces restantes à urbaniser, notre objectif sera de défendre le droit à l'année et mettre en place la servitude, comme je dis, j'insiste fortement, afin de privilégier la résidence principale. Si nous ne faisons pas ce travail-là, les jeunes, les familles, les actifs, malheureusement, devront partir. Donc là, c'est important.
Comment favoriser l'installation des travailleurs essentiels, notamment de santé, d'éducation et de services ? Ça reste un petit peu dans le même thème tout de même.
Alors là, on pose une question qui est à peu près semblable à la première. On ne pourra pas faire venir du personnel de santé, d'éducation ou de services si on ne met pas des logements à disposition. Donc à ce titre, Mathieu peut le dire, on en a déjà pour les domaines de la santé et autres.
Mathieu ?
Oui, effectivement, par exemple, pour les médecins qui viennent remplacer sur l'île-Dieu, il y a déjà des locations qui sont disponibles et c'est en accord avec l'hôpital et le centre médical de l'île.
Les 60 ans et plus représentent 40% environ de la population. Quelle sera votre politique du bien vieillir durant ce mandat si vous êtes élu, Patrice Bernard.
Effectivement, on a énormément de travail dans ce cadre-là, parce qu'on a une population qui est vieillissante. Donc la base, c'est de nommer un chargé de projet bien vieillir pour coordonner les réponses au vieillissement de la population et aux besoins en aide à domicile et en structure d'accueil.
D'accueil à Calypso, ailleurs sur l'île-Dieu, à la suite des Chênes Verts,
alors,
par exemple.
Voilà, donc on a dans notre objectif au cours de notre mandat, même voire plus, parce qu'on a un mandat, on ne va pas se focaliser. Et voilà, on n'a pas une vision à 2 jours, on a une vision à long terme. Mais néanmoins, il sera urgent de travailler en bonne intelligence avec les élus du département pour réhabiliter les pattes des Chênes Verts. Et on souhaite également y créer une structure, une unité de ville protégée, Alzheimer, un accueil de jour et un pôle d'activité et de soins adaptés. Donc c'est des choses qu'on a travaillées parce qu'on... Le programme, on ne l'a pas fait en 8 jours. Le programme, on y travaille depuis 1 an. Et c'est sur des actions qu'on met un point d'honneur à mettre en place. Aussi, pour le bien vieillir, il est important qu'on renforce les aides, les services d'aide à domicile, comme je disais tout à l'heure, au niveau des logements, mais également la livraison des repas 7 jours sur 7. Ça, c'est primordial. Les gens, plus en plus, ils ne veulent pas, malheureusement... Ils veulent pas rentrer dans les pattes, mais heureusement, je dirais. Donc, ils veulent rester chez eux. Mais
ils et elles veulent bien vieillir chez elles.
Exactement. Et puis, au niveau de la société, c'est, pour nous, c'est positif parce que les gens, ils restent plus avec leur famille. Ça les oblige à être moins dépendants. Donc, c'est plutôt positif. Donc, par rapport à la question de réhabilitation de Calypso, oui, on est dans la continuité et on va aller dans la continuité du projet d'habitat inclusif. Aujourd'hui, il a été acté pour 7 personnes, 6 personnes âgées et un jeune avec un léger handicap. Mais demain, on va aller au-delà. Au niveau de Calypso, d'avoir une partie en résidence autonome, ça fait partie de nos projets qu'on a mentionnés, que vous allez pouvoir lire attentivement sur les réseaux sociaux ou dans les programmes que vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres. Et puis, important de dire, c'est une surface conséquente et on gardera aussi un peu de logement pour les entreprises. J'insiste aussi sur, on parle de poursuivre un projet de résidence autonomie. Ce sont des projets qu'on va travailler, c'est des projets qui ne sont pas mûrs, pas suffisamment mûrs, très intéressants pour le territoire. Et l'objectif, c'est pour Calypso, c'est pas une finalité. J'insiste bien que le chêne vert, il faut réhabiliter notre chêne vert. Et si demain, le Calypso, ça peut nous permettre, parce que à la base, ça a été mal anticipé, nous, ce qu'on imaginait, ce qu'on avait demandé, c'était avant que tous nos aînés qui étaient à Calypso s'orientent vers le chêne vert, c'était de faire les travaux du chêne vert, et puis petit à petit...
En amont.
En amont, il fallait anticiper. Là, on a mis la charrue avant les bœufs, excusez-moi l'expression. Et effectivement, là, maintenant, on se retrouve avec... un EHPAD qui à un moment donné qui est complet et qu'à un moment donné si on veut faire des travaux il va falloir qu'on trouve des solutions.
Patrice, en vous écoutant parler, il n'aurait pas dû fermer Calypso.
Alors ce que je dis c'est que Calypso, faut être cohérent. En 2020, on voulait associer les deux EHPAD en un Et l'objectif est toujours le même. D'ailleurs, maintenant, Calypso est fermé, mais il aurait été beaucoup plus utile, et ça, on l'a dit à maintes reprises, avant de fermer Calypso, faites les travaux de l'EHPAD du Chêne Vert. C'est un non-sens.
Il n'y avait pas de financement, par contre.
Mais le financement, c'est à voir avec d'un point de vue départemental, si derrière, il fallait...
Département et ARS.
Oui.
Agence régionale de santé, pour être précis.
Tout à fait. Mais voilà, il fallait l'étaler dans le temps pour que ça puisse se faire. De toute façon, ce qu'on n'a pas réussi hier, nous, on va tout faire pour que les travaux puissent voir le jour au niveau des chaînes verts.
Mathieu Riouf.
Oui, on a essayé de réfléchir à comment est-ce que ces travaux pourraient être engagés, dans le sens où, effectivement, on ne va pas pouvoir vider les chambres pendant que les travaux seront en cours. Donc, en créant cette unité de vie protégée Alzheimer, l'idée, ça va être de créer quelques chambres, de pouvoir éventuellement libérer d'autres parties du chêne vert en faisant cette unité-là. Ça permettrait de pouvoir loger correctement les personnes âgées. Et là, on pourrait, par phase, commencer les travaux dans les chênes verts et ensuite faire un roulement pour pouvoir avoir des travaux et ne pas trop nuire au quotidien de ces personnes, que ce soit par le bruit, la poussière, etc. Donc, on peut envisager des phases avec un roulement comme ça, grâce à cette unité qui sera de toute façon importante pour l'avenir. Hein,
sachant que quand le département nous avait... Pardon, je coupe mon cher Mathieu. Quand le département nous avait projeté un peu leur méthode pour réhabiliter l'établissement, et ils nous ont dit on va faire des blocs de 5 logements par 5 logements. Donc ce que vient de souligner justement Mathieu, c'est-à-dire que dans cette unité des aimants qu'on veut agrandir, on pourrait faire un palier, ça se fait en deux phases, à défaut effectivement de les orienter uniquement sur Calypso, parce qu'après ça génère énormément des frais de fonctionnement qu'il faut éviter.
Vous voyez ce projet au début de votre mandat, si vous êtes élu, à la moitié ou à la fin? C'est pas quantifiable pour le moment.
Alors, j'insiste fortement que ce sont pas les finances communales.
Départementales et ARS.
Voilà. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces travaux puissent être réalisés pendant le mandat. Le mandat qui devrait s'orienter sur 7 ans au lieu de 6. Donc, il est important pour nous de tout mettre en œuvre, en coordination avec le département, pour que les travaux puissent se faire en bonne intelligence.
Quelle place pour les résidences secondaires dans votre réflexion?
Donc la place des résidences secondaires, elle est... Alors on est un peu surpris des fois des questions, mais la place, ils contribuent à 66% notre parc immobilier. C'est des gens qu'on aime voir venir, qu'on aime des fois voir partir, mais... Voilà, nous, ce qu'on souhaite surtout, on aimerait que ces gens viennent, voilà, en dehors de la période estivale, bien souvent. Et puis, cette population de résidences secondaires, eh ben, elle a toute sa place. Quand je parle, tout à l'heure, de logement, il est évident qu'à un moment donné, il y a eu cette surtaxe d'habitation qui leur a pas fait plaisir. Il y a eu les meublés de touristes qui ont été mis en place. C'était un peu la douche froide aussi pour eux. Nous, dans le cadre des meublés de touristes, c'est pas gravé dans le marbre. J'insiste fortement. Peut-être qu'on va se démarquer des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on...
Quelle est votre stratégie?
Notre stratégie, c'est de dire, voilà, il y a des élus qui ont travaillé pendant 3 ans sur un dossier. Alors, c'est très facile de reprocher à des élus de pas travailler sur un PLU. Là, ils ont travaillé sur un dossier. Donc là, OK. Ils ont travaillé sur un dossier. Il faut reconnaître ce travail. Néanmoins, il y a toujours des imprévus dans un dossier qu'on lance en place. Si demain on lance le mur, on maîtrise pas tout parce qu'on n'a pas assez de recul. Et là, avec du recul, le problème des meublés de touristes, c'est le problème des DPE, où à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup plus de contraintes à louer un immeuble en saison que de louer à l'année ou louer l'hiver. Enfin, je veux dire pas louer l'hiver, mais louer à l'année. Donc à un moment donné, on se donne le temps pour analyser le meublé de touristes. Et puis, si on doit revoir le dispositif, on reverra le dispositif.
En gros, vous allez le modifier.
De toute façon, il ne restera pas en l'état. Quand vous avez une résidence principale, vous pouvez la louer 4 mois et vous pouvez vous affranchir du numéro d'usage et du DPE. Hein, et si vous avez une résidence secondaire, vous ne pouvez même pas le louer un mois. Donc, c'est pas équitable. Donc, simplement pour répondre à votre question, la population des résidences secondaires, elle a toute sa place, non seulement dans la réflexion, mais aussi dans les projets à venir. Il est évident que nous, demain, on va réviser un PLU, on va consulter ces gens-là. Demain, on va élargir nos commissions, on va mettre en place des consultants de quartier, les résidences secondaires pourront adhérer à ces commissions élargies. Ils pourront, voilà, à un moment donné, c'est-à-dire ils font partie de notre population et pour nous, ils sont traités comme les autres.
Quelle est votre vision pour le tourisme? On en a parlé un petit peu à l'instant. Faut-il le réguler, le diversifier ou le transformer? Mathieu Riouf.
Merci. Oui, alors je pense qu'effectivement, il va falloir faire en sorte que le sur-tourisme soit un peu mieux géré, parce que je pense pouvoir dire que l'on est unanime sur
Vous dites sur-tourisme?
Oui, le sur-tourisme, il est clair que du 15 août...
Sur-tourisme, trois semaines.
Oui, voilà, du 15 juillet au 15 août, hein, en gros, ça devient très compliqué pour les gens de l'Île-Dieu. On ne peut pas dire le contraire, c'est le ressenti quand même général. Que ce soit les infrastructures routières qui sont débordées, que ce soit la station d'épuration, que ce soit les terrasses de café, les restaurants qui sont bien trop... peuplé, il va falloir que l'on trouve des solutions pour au moins ne pas accentuer cet effet de tourisme de masse que je crois nous ne souhaitons plus. Alors le réguler, ce serait une bonne chose, le réduire peut-être pas, mais au moins voilà.
C'est pour ça que j'ai dit transformer également.
Voilà, ne plus aller plus loin. Je pense que l'économie de toute façon se porte bien en haute saison. Il n'est pas nécessaire, et les commerçants le disent, hein, quand on discute avec eux, de toute façon, à un moment donné, ils sont à saturation, donc ils ne peuvent pas faire plus. Il n'est pas nécessaire de chercher à avoir encore plus de monde sur cette période-là. Il serait peut-être plus intéressant de réussir à le lisser, d'avoir un petit peu moins de monde sur cette période-là, éventuellement, et d'en faire venir un petit peu plus en juin, jusqu'à la mi-octobre.
Donc, comment allez-vous faire ?
Alors, on va y venir peut-être...
Je vous passe la parole juste après, Patrice.
Un peu plus tard, mais c'est vrai que, par exemple, on est pour la récupération de la gestion du port, des ports. Ça peut être une solution, un levier qui pourrait être utilisé pour les allers-retours des bateaux sur les grosses saisons. Et donc, ça pourrait permettre déjà, en diminuant certains allers-retours...
Certaines rotations de la compagnie Vendaine et de la compagnie du Continent?
Éventuellement,
c'est possible,
pistes,
ça?
C'est des pistes qui pourraient être étudiées pour faire un petit peu moins de rotation sur ces grosses périodes et aller en chercher sur d'autres moments un peu plus calmes.
Patrice, Bernard.
Simplement, ce que je voulais dire, c'est, je l'ai dit en introduction, on est passé de 60 à 66% de résidences secondaires. Donc il faut privilégier déjà cette clientèle, excusez-moi de parler de ça, cette clientèle, cette population, il faut la privilégier. Et comme le dit très justement Mathieu, dans les flux de touristes qu'on peut rencontrer entre le 14 juillet et le 18-20 août, et là, effectivement, par le biais de nos flux touristiques, et si demain, on va en parler, on doute tout à l'heure, pour la gestion des ports,
et il est c'est au programme, Patrice.
C'est trop programme, mais tant mieux si vous nous posez la question. Mais en tout cas, ce que j'insiste fortement, c'est qu'on ne peut pas continuer à accueillir des personnes, des femmes et des hommes décemment, si derrière, on n'a pas toutes les structures d'accueil nécessaires. Et on arrive à saturation à une période de l'année, il faut le dire. Et Mathieu, il l'a souligné correctement.
Gestion des ports, mais on va en parler tout de suite. Gestion des ports par la commune de l'Île-Dieu, est-ce possible, envisageable ou illusoire? Car la fin de la concession, c'est fin 2027. Patrice.
Donc là, pour la gestion des ports, on l'a toujours affiché, on l'a écrit sur les réseaux sociaux. Et puis, dès le début, on savait que fin 2027... On avait cette possibilité de faire acte de candidature pour reprendre la concession de nos ports, que ce soit le port de la Meule ou le port Joinville. Donc, je trouvais l'idée très intéressante, à plus d'un titre, parce que le port de l'Île-Dieu est un des ports le plus florifique de la côte atlantique. Hein. On a 25 000 annuités par an, donc c'est énorme. Donc, c'est un port qui fonctionne très bien. Et puis... mais c'est une chose, mais l'objectif c'est faire acte de candidature et tout faire pour prendre la reprise des ports. Et là on s'est fait entourer de femmes et d'hommes compétentes, hein. On a un expert en la matière et c'est pour ça qu'on s'oriente là-dessus. On part pas bêtement fleur au fusil. Et c'est la richesse d'avoir une équipe autour de moi qui est très structurée et il y a des profils différents, et c'est intéressant, avec des compétences variées, et c'est grâce à ces compétences variées qu'on peut se permettre de faire acte de candidature. Alors après, voilà, c'est le département qui en décidera. Mais l'objectif reste le même, et ce qu'on a pu voir dans certains ports et certains flux, ils pouvaient maîtriser leur flux touristique quand ils étaient maîtres dans leur port. Donc ça fait partie un de nos leviers qu'on mettra en place à un moment donné pour éviter d'avoir 20 allers-retours de certaines compagnies alors qu'on n'est plus en mesure de mettre des vélos de location à disposition, de pouvoir les nourrir. Et puis derrière, ça génère aussi des désordres sur la voie routière.
Ce que vous nous dites, si la commune de l'Île-Dieu reprend la gestion des ports, vous pourrez limiter les rotations de la compagnie du continent et de la compagnie vendéenne. Je l'ai compris comme ça. Est-ce que j'ai bien compris?
J'ai dit simplement que ça pourrait être un des leviers. Ça peut être un des leviers. Aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est légal?
Alors, c'est-à-dire que ces dispositions ont été prises dans d'autres ports. Donc nous, on s'appuiera sur ces dispositions qui ont été prises ailleurs. On n'invente rien. Voilà. Et puis, quand vous dites c'est légal, on va pas tout révolutionner. Si aujourd'hui, on a 10 bateaux, 15 bateaux, jusqu'à 18 bateaux aller-retour entre le 1er et 15 août, on va pas mettre 10 allers. On va pas les contraindre à 10 allers-retours. Ces gens, ils ont des investissements, ils ont investi dans des bateaux, ils ont du personnel. Mais c'est de travailler aussi, eux, en bonne intelligence pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des mesures. Voilà, c'est du bon sens. Et ce bon sens, on souhaite l'appliquer sur notre territoire pour que notre cadre de vie ne soit pas détérioré.
La gestion de ces ports, c'est un coût tout de même.
La gestion, c'est un port, mais pour mettre en place... C'est un coût, mais pour ce coût, il est supporté d'une part... D'abord, on crée une entité, hein, on crée une SEM, hein, une société d'économie mixte. Ce n'est pas la mairie en elle-même qui va gérer les ports. C'est une société qu'on va mettre en place. Hein. Nous, on apporte notre concours... on peut apporter notre concours financier, mais à un moment donné, c'est toute cette société qui va investir. Et puis, à un moment donné, comme je vous dis que c'est un port, le port de l'Île-Dieu est rentable. Néanmoins, l'objectif du port, c'est aussi de ne pas se retrouver avec des groupes, pour ne pas le nommer comme Vinci et autres, qui puissent prendre la gestion des ports. Et l'objectif principal, on parlait de flux de tourisme, mais c'est de garder l'équilibre entre la pêche, le commerce et la plaisance. Il est hors de question d'avoir un port où on va retrouver des voiliers dans le port de pêche, dans le bassin flot partout. Non, il faut garder cet équilibre et nous, on s'engage à garder cet équilibre dans le port.
Comment envisagez-vous la gestion des ressources en eau, en déchets, dans ce contexte d'afflux de tourisme qui est croissant, même si vous voulez essayer de le réguler, on l'a bien compris.
Oui.
Si vous êtes élu, bien sûr.
Alors d'un point de vue environnemental, on souhaite, d'un point de vue environnemental, on souhaite au niveau de l'eau, la gestion de l'eau, on souhaite poursuivre et renforcer les aides au financement pour l'installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que
ça existe déjà.
Oui, mais il faut l'amplifier. Il faut l'amplifier par des aides pour qu'à un moment donné, on soit capable, tout à chacun, pour arroser notre jardin ou laver notre voiture, c'est un exemple, d'utiliser cette eau-là plutôt que l'eau du robinet. Parce qu'on arrive... On arrive avec une autonomie en eau sur la commune de L'Île-Dieu en été, dans les pics d'été, à 24 heures. Donc, à un moment donné, si on a une rupture sur le... Voilà, donc on a donc ce phénomène où on a une autonomie qui est très faible. Donc, à un moment donné, il est évident qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On a aussi un réseau où il faut en permanence... il y a des désordres, il faut réhabiliter ce réseau. Hein. Et puis, quand tu parles de réseau d'eau, de réseau déchets, contexte de touristique, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà, depuis de nombreuses années. C'est des choses qu'on, voilà, pour ma part, je suis élu depuis 25 ans. J'ai eu deux mandats d'adjoint où j'ai œuvré dans l'aménagement du territoire et principalement dans l'environnement. J'avais toutes ces choses-là à gérer et ça se gère très bien. Sauf qu'il faut voilà, faire les choses en bonne intelligence, qu'on revient sur l'articulation des déchets. Bon, ben là, c'est pareil, on doit trier encore plus. Il y a plein de dispositions qui ont été mises en place. On a aussi, dans tout ce qui est matériaux inertes, où on doit beaucoup innover pour éviter ce qu'on a pu voir ces dernières années, où ils ont évacué des matériaux à hauteur de 400 et 500 000 euros de matériaux sur le continent, mais dans le cadre de l'économie circulaire, c'est des choses qu'on doit changer radicalement. On doit être en mesure de valoriser nos gisements sur notre territoire afin d'éviter de les envoyer sur, notre, sur le continent.
Récupérateur d'eau, c'est compatible avec le PLU,
il n'y a aucune ambiguïté. De l'instant que le réservoir n'est pas mis sur la voie, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous en avez partout sur le territoire.
Durant ce mandat, souhaitez-vous et où pouvez-vous réduire la dette de la commune qui était en 2024 d'environ 19 437 630 euros, soit environ 3868 euros par personne?
Je vois que vous êtes très précis, monsieur Roland. Évidemment, la dette est colossale.
Vous dites colossale.
Elle est importante, disons, en parlant poliment. Et l'objectif, d'abord, c'est de réduire les charges de fonctionnement. On parle de dette, de dette, de dette, mais à un moment donné, les charges de fonctionnement ont beaucoup évolué. Les charges de fonctionnement, en règle générale. Aujourd'hui, sur un budget, on a un budget de fonctionnement de 18 millions d'euros, on a plus de 15 millions d'euros qui est lié dans les charges de fonctionnement. Donc, ce qui est énorme. Effectivement... si on veut avoir, on veut nous se permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir investir et emprunter demain, effectivement, il faut réduire ces charges de fonctionnement qui sont des charges courantes liées aux structures et autres. Mais également, pour les investissements, il est évident que les deux premières années, on va faire très peu d'emprunts parce qu'il est évident qu'il va falloir, minimiser ces emprunts et étaler dans le temps, et malgré les grands projets qu'on va vous faire part tout à l'heure. Et un point important aussi, c'est on va passer la recherche de subventions. Les subventions, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a des subventions qu'on n'a pas utilisées, par exemple pour l'ASPE. On a 500 000 euros qui dort, où à un moment donné, il y a des gens qui se mobilisent pour aller chercher des subventions pour différents projets, que ce soit dans le cadre des petites villes de demain. Donc, j'ai dit 500 000 euros l'aspect, mais vous en avez aussi, vous avez une somme importante aussi pour les logements et la réhabilitation des immeubles au Grand Phare. Au Grand Phare, nous, on souhaite aussi faire une maison de l'environnement et l'aménagement de l'agriculture sur une maison. Mais pour revenir à c'est la recherche de subventions. Les recherches de subventions, c'est important, que ce soit à l'Europe, ce qu'on appelle le FEDER, et puis l'État, le département et toutes ces institutions qui systématiquement, pour tous les projets, pour éviter l'autofinancement, c'est le travail qu'on va mener, c'est d'aller chercher ces financements.
Les projets, Patrice, on va en parler. Quels sont vos grands projets pour ce mandat, si vous êtes élu?
Donc, les projets, il y en a nombreux, parce qu'à un moment donné, ils s'inscriront dans le temps. Notre objectif, c'est pas d'aller sur un mandat, mais c'est aller sur deux. Vous voyez, on est ambitieux. On va sur deux mandats, Roland. C'est-à-dire que les projets se feront le long du mandat. J'ai bien dit, logiquement, on part sur 7 ans, mais même si on partait pour 7 ans, et les deux premières années, ça va être... on va d'abord...
Essayer de désendetter la commune, ce que vous nous avez dit.
Oui, mais on va essayer de planifier tous les dossiers. Les premiers dossiers qu'on va avoir à mettre en place, on a discuté. Mais dans les grands projets...
La loi Lemaire, entre autres.
Oui, mais ça, c'est des choses qui sont... L'important, c'est de lancer le PLU, c'est 4 ans de travail. Donc, il va falloir le lancer tout de suite si on veut le réaliser. Alors, dans les grands projets, on a la réhabilitation de l'usine. L'usine, on le sait, c'est inévitable. Il faut le faire.
C'est quoi votre projet pour cette usine, alors?
Pour l'usine, c'est embellir l'usine, au moins dans un minima.
Comment?
Refaire les façades et les pignons. Et puis, nous, on souhaite l'usine, la dédier à la vie économique. Ça, c'est important.
Avec des bureaux, un marché couvert.
Ça, c'est... On souhaite travailler avec les artisans locaux pour voir l'orientation définitive du lieu. Je pense qu'on ne peut pas se permettre...
Vous avez déjà des idées.
On a des idées, on a déjà travaillé là-dessus. Mais si on va loin...
Est-ce que vous pouvez les communiquer, ces idées?
Alors, je vais vous dire ce qu'on souhaite faire, nous, sur le quartier des usines. Donc, d'abord, on a la place de l'Encan. On veut revoir une place qui correspond à quelque chose. Aujourd'hui, c'est un bout de friche urbaine. Donc ça, voilà. Pour l'aspect, c'est l'embellissement du bâtiment et derrière la dédier à la vie économique, dans un premier temps. On verra après si on doit aller au-delà. Mais on ira chercher des financements publics-privés. On ne pourra pas tout financer avec l'argent public. Dans le quartier d'usine, nous, on englobe l'école du PU, où on va faire des logements. On va faire aussi...
Combien de logements?
le logement, bon, on va voir, c'est-à-dire que là, on a des possibilités de construction à 90%, donc c'est énorme. Donc on souhaite aussi garder un espace pour une salle de remise en forme au niveau de l'école du PU. Et puis dans le cadre de grands projets, donc c'est d'implanter un espace jeune sur le champ de foire avec une salle des fêtes et des commerces. Donc là, on va profiter de la démolition des anciens ateliers relais. L'objectif, c'est d'avoir une salle des fêtes et des commerces et un espace jeune avec une esplanade sur mer. Et en courte, on aura la route, comme le projet a été présenté ces derniers mois. Voilà, nous, on veut modifier un peu le projet. Mais tout ça, tout ce grand projet, ça ne pourra s'articuler en fin de mandat et dans le cadre du démantèlement du chapiteau. Parce que le chapiteau n'a pas une espérance de vie énorme, donc il faut anticiper. C'est pour ça qu'on va lancer cette opération, pour anticiper au niveau du démantèlement du chapiteau. Et d'ailleurs, à la place de la salle Louis Michaud, derrière le chapiteau, on fera un théâtre de plein air avec un théâtre de plein air. Et puis, à un moment donné, on va revoir vraiment pour qu'on puisse faire des spectacles de son et lumière au sein de l'enceinte de Pierre Levé. Dans les grands projets, parce que j'ai pas fini, on est ambitieux, hein, et c'est pour ça.
Non, vous avez un petit peu de temps, il vous reste 8 minutes.
Ah, voilà.
Prenez votre temps.
Bon, s'il nous reste.
Patrice, vous inquiétez pas.
Voilà. Donc, c'est. Alors, les projets, s'il y a un projet qu'on doit lancer le plus vite possible, qui sera. Voilà. Qui devrait sortir de terre, c'est nous, on veut revoir tout ce qui est lié à la petite enfance et de refaire une crèche. Une crèche digne de ce nom. Une crèche adaptée aux besoins des familles, et on veut y associer une maison des assistantes maternelles.
Car la crèche actuelle n'est plus aux normes.
Là, elle est plus aux normes, et puis à un moment donné, il faut penser aussi aux femmes, aux hommes qui travaillent dans cet établissement, il faut surtout penser aussi aux enfants. À un moment donné, non, c'est plus possible. Et on a deux endroits potentiels pour le faire, donc on souhaite, nous, prioriser un espace autour des EHPAD, pour qu'on ait un lieu de vie entre les jeunes et les moins jeunes.
Donc, médiathèque, cinéma, personnes âgées et jeunes.
Voilà, et on a suffisamment de foncier pour faire cela. Hein. On souhaite aussi, dans le cadre de tous nos projets, donc je l'ai dit, faire en sorte, donc l'église, j'en ai parlé, et l'aménagement du trait de côte.
L'église ?
L'église, non.
L'église, j'en ai pas parlé.
Non, allez-y.
Donc, effectivement, là, on a fait des études et on a besoin de faire des travaux d'urgence au niveau de l'église.
L'église de Port-Joinville, vous parlez ?
Ah oui, bien sûr, l'église de Port-Joinville. Donc, ça fera partie de la rénovation de notre patrimoine pour lancer cette opération. Les coûts estimés sont de l'ordre de 1,5 million à 2 millions d'euros pour au moins refaire une partie de la toiture et de la charpente.
Vous allez chercher des subventions ?
Alors, c'est sous ces édifices religieux. C'est fortement subventionné. C'est fortement subventionné. Donc, mais de toute façon, que ce soit pour ce projet-là ou les autres, on ira rechercher un maximum de subventions. J'attire aussi votre attention, dans les grands projets, c'est aussi notre patrimoine naturel. On a la richesse sur notre territoire d'avoir 35% d'espace naturel, et il est important de bien concilier tous nos usages sur notre territoire et de poursuivre l'aménagement de territoire. Ce n'est pas que le trait de côte, on a beaucoup de travail à faire sur le trait de côte. On l'a vu ces derniers temps avec les tempêtes pour refaire les accès. Mais quand je parle au niveau naturel, c'est ouvrir les milieux pour la lutte contre l'incendie, c'est sensibiliser les jeunes à la richesse de notre biodiversité.
Comment vous allez faire ?
C'est-à-dire qu'on va travailler avec les écoles. Hein, c'est travailler avec les écoles déjà au niveau de l'estran ou des aires marines protégées. On a déjà un bâtiment qui est le Lébim qu'on souhaite réhabiliter justement pour que les classes puissent découvrir ce milieu marin.
Le retour de l'aquarium ?
Voilà, on ne va pas refaire un aquarium parce que cet espace Lébim qu'on souhaite réhabiliter, en fait, il est en réhabilitation depuis 3 ans. Hein. Donc on va poursuivre les travaux pour qu'il soit dédié uniquement à tout ce qui est activité à la mer, donc aux associations, mais aussi aux écoles. Donc vous allez pouvoir découvrir dans notre programme que au niveau environnemental, on a un programme très riche pour préserver nos écosystèmes.
Et si surtout, vous voulez donner quelques exemples, allez-y, hein, je vous en prie.
Voilà, donc à un moment donné, on a de plus en plus de dégradation du milieu. On le voit toujours avec tous nos nuisibles. On va donner un exemple. Un exemple, c'est les frelons. On voit nos abeilles qui disparaissent. Et nos abeilles, c'est nos cultures. c'est nos arbres fruitiers, c'est tout ce qui est lié à notre biodiversité. Donc, il sera important de lancer une grande campagne et de sensibiliser les propriétaires, non seulement pour gérer tout ça, et puis, voilà, et dans ce cadre-là, à part les commissions, commissions finances et commissions d'urbanisme qu'on ne peut pas élargir, les autres commissions, on va l'élargir à la population.
Comment comptez-vous associer les habitants, les acteurs locaux à la prise de décision, si vous êtes élu, durant votre mandat ?
Donc là, dans ce cadre-là, on n'a rien inventé. Ce qui marchait très bien lors de notre premier mandat et deuxième mandat, on va le remettre en place. Donc la première des choses, c'est, je viens de le citer, on va élargir les commissions à la population.
Et toutes les commissions ?
À part la commission finance et la commission... voilà. Donc on va élargir les voilà. On va mettre en place un conseil des jeunes. Un conseil municipal de jeunes, ça c'est important. On va refaire ce qui marchait très bien, c'est les consultants de quartier. Et ça marche très bien, voilà.
Vous pouvez nous rappeler le principe. Hein.
Donc les consultants de quartier, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'on fait appel à la population, celles et ceux au niveau d'un quartier, ça peut être, je vais prendre un exemple, on va prendre, mettons, La Croix, on prend un ou deux référents de quartier si on a un village qui est un peu grand, mais souvent c'est un, s'il y en a deux, c'est très bien. Et puis à un moment donné, voilà, ça améliore le lien entre le village et la mairie pour la réaction des travaux à faire. Et à un moment donné, c'est l'objectif, c'est de mobiliser un grand nombre de la population pour les associer pour le devenir de l'île.
En gros, c'est faire remonter les problématiques.
Oui. Oui.
Par exemple, les trous sur les routes.
Oui.
Les nids de poules.
Ben, disons qu'il n'y a pas que les nids de poules. Hein,
c'est un exemple.
C'est un éclairage public. C'est à un moment donné, ils ont besoin d'un composteur collectif et différentes choses. J'assiste aussi fortement... au niveau de la communication, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qui a pu être fait précédemment. On a eu trop d'associations qui se sont créées par justement un manque de transparence et de communication. Nous, il est évident qu'on fera une ou deux réunions publiques par an et on associera toutes les associations qui ont vu les jours ces dernières années et précédemment pour pouvoir les associer dans notre grande décision.
D'autres idées pour associer les résidents de l'île Dieu ou même les résidents secondaires, hein, bien sûr, Patrice.
Les résidents secondaires seront les bienvenus et à un moment donné, on saura les rencontrer. Il y a une association qui s'appelle Yeux M'Engage. Quand on fera nos réunions publiques, on en fera une en hiver et une en été, c'est la moindre des choses. Mais on a déjà de bons échanges avec tout le monde et on souhaite pérenniser ces bons échanges pour qu'on puisse travailler sereinement dans l'intérêt de tous.
Il vous reste quelques minutes. Quel est votre message pour les auditeurs, auditrices qui hésitent ? Patrice, Bernard ou Mathieu Riouf ?
Alors là, moi, avant de conclure, je voudrais laisser la parole à Mathieu et après, je vais conclure.
Oui, Mathieu Riouf.
Merci. Non, mais effectivement, on a réussi à monter une super équipe. Hein. Ça fait plus d'un an qu'on y travaille avec Patrice. Pour quand même un petit peu situer les personnes que l'on a avec nous. On a une moyenne d'âge de 51 ans. On a réussi à avoir un très bon équilibre sur les secteurs d'activité que l'on peut représenter. On a des artisans, des gens qui vont travailler dans l'économie, la finance. On a des commerçants, des retraités. On a un marin-pêcheur et on touche aussi au médical et à la petite enfance. On est très content de cette mixité qui représente, je pense, très très bien la population illaise et aussi un petit peu les secondaires, puisqu'on a des gens qui sont arrivés sur l'île il y a 4, 5, 6, 8, 10, 12 ans. Hein. On a quelque chose de très très mixte.
D'autres au mois de juillet. D'autres au mois de juillet. Pour notre île, on s'engage à préserver nos familles et les jeunes pour que chacun puisse vivre et s'épanouir ici, ensemble. Et je suis sûr que tous ensemble, nous pouvons rendre notre île encore plus agréable au quotidien. Donc voilà, j'avais écrit ce petit mot parce que vous nous aviez laissé 5 minutes pour écrire un petit mot de la fin. Et je tiens à remercier tous les auditeurs et les auditrices de Neptune FM et tous les îlaises et les îlets qui nous ont écouté et entendu cet après-midi. Et je le répète, vous allez avoir le week-end prochain le programme qui doit être distribué dans vos boîtes aux lettres, mais également dans les réseaux sociaux. Merci à vous.
Dans le cadre des élections municipales du 15 et 22 mars, c'était la liste Mieux Ensemble. Patrice Bernard, merci beaucoup, tête de liste.
Merci, et je laisse aussi le soin à tout à chacun de venir nous rencontrer le mercredi 11 mars à 20h30 au chapiteau de la Citadelle. Merci à vous.
Mathieu Rioux, merci beaucoup.
Merci beaucoup.